pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio, c'est l'heure de Jazz Interview et comme d'habitude dans cette émission, eh bien, nous retrouvons Serge Mariani. Bonjour Serge.
Bonjour Julie. Oui, Jazz Interview, je ne sais plus le numéro, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, elle va forcément être bien.
Et c'est là, peut-être un anniversaire voici, là, d'ailleurs.
Oui, je crois que c'est dans pas longtemps. Ouais. Ah mais oui, c'est peut-être ça.
Ouais. Ah oui, il faudra qu'on vérifie.
C'est peut-être un an de Jazz Interview,
et
par
oui,
mois en tout cas.
À mon avis. C'est bon, pas loin d'un an.
D'accord, donc après, il y a champagne et gâteau. J'imagine.
Exactement.
Super, très bien. Alors, j'y vais parce que quand même, on a une émission à faire. C'est parti. Il n'y a pas que des kangourous, des crocodiles et des koalas au pays de la Grande Barrière de Corail et des aborigènes, ou de ce qu'il reste de l'une comme des autres. Non, il y a aussi une espèce pas encore assez rare pour que l'on s'inquiète de son éventuelle disparition. Des musiciens, donc d'excellents musiciens même, et des musiciens de jazz en particulier. À quoi peut donc ressembler vraiment le jazz australien ? Existe-t-il ? Sydney, Melbourne ou encore Perth, ces grandes cités australiennes si éloignées des bords de Seine ou des quais de l'Hudson River, ont-elles des scènes actives et innovantes où l'on puisse écouter de nouvelles tendances musicales ? Y a-t-il un renouveau austral qui nous viendrait de si loin ? C'est fort probable et après tout, même à presque une journée d'avion, hein, l'Australie n'est pas une planète aux confins de l'univers connu. J'en veux pour preuve aujourd'hui la présence dans le studio d'Art District Radio d'un pianiste, certes franco-australien, mais suffisamment australien pour nous aider à faire un premier point sur ce jazz dont les interprètes ont sur leurs chaussures et le bas de leurs pantalons un peu du sable rouge du bush immense de leur pays. Et nous présenter sa musique aussi. Ce pianiste a pour nom Daniel Gassin et je lui dis à présent bonjour et bienvenue dans cette jazz interview.
Bonjour, merci beaucoup.
Ça va, voilà, l'émission est terminée parce que cette introduction dure 45 minutes.
Oui.
Ça va, Daniel ?
Ça va très bien, merci. Un peu froid par rapport à l'Australie, justement, mais sinon très
alors
bien.
Alors moi, j'ai très chaud, là. C'est comme si j'étais au sauna, je ne sais pas. C'est parce que j'ai marché vite dans la rue et forcément, comme on est couvert comme des oignons, comme on dit en France. Je ne sais pas comment on dit, ça se dit en australien
Ah ben, je ne sais pas, mais vu qu'on est jamais couvert.
On est couvert.
On n'est jamais couvert comme ça en Australie,
ah,
donc
bah, oui.
Peut-être qu'il n'y a pas de terme.
D'accord, tant mieux. Bon, enfin en tout cas, on est bien dans le studio pour cette jazz interview avec vous, Daniel. On va parler d'un disque hein, que j'ai sous les yeux un petit peu après. Mais donc, moi ce que j'aimerais bien, pour commencer, c'est que on s'était déjà rencontrés au Caveau des Oubliettes
oui,
à l'occasion de la journée internationale du jazz. C'était début mai cette année. Enfin oui, c'était encore cette année, oui bien sûr.
Oui, qui était d'ailleurs à Melbourne, chez moi.
La ville haute
cette année. C'était vraiment chez
d'accord.
moi.
D'accord, vous étiez envoyé spécial en fait de Melbourne à Paris pour
on va dire ça.
Faire la jonction. D'accord.
On va dire ça.
Ok, oui c'est vrai. Oui. Et donc on avait pu parler à la fin du reportage que j'avais fait aussi pour Art District Radio à cette occasion au club. Et on avait commencé un peu à jalonner, un peu à évoquer justement la scène jazz en Australie. Et je me souviens qu'on avait parlé un petit peu de Melbourne, de Sydney.
Oui, oui.
Je crois que de mémoire, Sydney, c'est un peu la tradition. Melbourne, c'est un peu plus la créativité, les tendances nouvelles. C'est
oui,
ça, hein, on ne revient pas là-dessus.
Oui, je pense que
parce
c'est
que
un petit
vous,
peu
vous
ça
êtes de Melbourne.
Oui, oui, moi je suis de Melbourne. Donc on peut résumer ça... vite fait comme ça, effectivement. C'est un peu les stéréotypes qu'on a les uns pour les autres. Et c'est un petit peu la rivalité, les deux grandes villes australiennes.
Parce que j'imagine qu'elles sont... j'ai plus la carte d'Australie dans la tête, là, mais c'est très loin l'un de l'autre. Melbourne.
Tout est relatif. Pour nous, pas si loin, mais pour vous, oui, c'est à presque 1000 km.
Voilà,
entre
c'est
les
comme l'île
oui.
Marseille, quoi, grosso modo.
Voilà.
Environ.
Ouais, minimum.
Ouais, ouais
voilà.
C'est ça, ouais.
Voilà.
Donc, d'accord, c'est quand même pas à côté non plus, on n'y va pas comme ça, quoi.
Non, on n'y va pas comme ça, et plutôt en avion.
D'accord. Et alors, donc, vous, Daniel, vous avez, on va faire un flashback sur votre vie, donc né à Melbourne.
Oui, tout à fait.
Études à Melbourne, bon, maintenant.
Oui,
et
oui.
Études musicales à Melbourne aussi. Non.
Moi, j'ai pas fait d'études musicales
voilà.
formelles.
Je voulais vous
oui,
en parler, d'ailleurs, parce
oui,
que j'ai
oui,
écouté
oui,
le disque.
Mais... d'accord.
Non, non, je plaisante.
Non, mais... oui, tout à
autodidacte.
Fait.
Autodidacte.
Alors, on m'a... Pas du tout pour le piano, j'ai vraiment suivi des cours particuliers pour le piano, mais oui, autodidacte en jazz, tout à fait.
Ah, en donc, jazz, d'accord.
Oui, c'est ce que j'ai fait, donc on, voilà.
Et le piano tout de suite?
Oui, le piano tout de suite, voilà, un peu par hasard, je pense que je me suis mis à taper sur le piano de ma grand-mère aux... aux États-Unis quand j'avais 3 ans, et après, voilà, on m'a loué un piano derrière mes
oui,
parents.
Oui, parce
ils
que ça suffisait
dit,
de casser celui de mamie.
Voilà, bon, il était déjà bien cassé celui de mamie. Mais voilà, et mes parents, ils avaient dit bah, peut-être qu'il a un peu de talent, on va essayer, on va lui louer un piano et voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'ai pris des cours, j'ai montré du talent, et c'est justement mamie, parce que mes parents, ils n'avaient pas énormément d'argent, et c'est mamie qui a avancé les sous pour finalement acheter le piano qui était loué avant.
D'accord. Et comme je l'ai dit dans l'ouverture, donc vous êtes franco-australien.
Oui.
C'est papa qui est...
Alors oui, moi c'est un peu compliqué, mais oui, papa c'est français, donc d'où mon nom de famille.
Gassin.
Et maman c'est une californienne en fait.
Ah d'accord.
Mais c'est juste que je suis né en Australie.
Ils étaient en Australie à ce moment-là.
Voilà, exactement. Voilà, d'accord. Et ils sont restés.
D'accord. Donc, le piano de mamie aux États-Unis.
Oui.
Là, maintenant, on revient à Melbourne.
Oui.
Donc,
pour
particulier, le piano, voilà. Le jazz. Alors, le jazz, ça arrive comment?
Tôt? Assez tôt, oui. Genre, vers 10-11 ans, j'attends pour faire mon cours. Et il y a le môme avant, il y a l'élève avant qui fait son cours et qui faisait des trucs pas vraiment jazz, mais un peu des concepts jazz. Et... j'entends cette musique-là et je dis ça que j'ai envie de faire. En fait. J'étais un peu plus résistant au classique, et je faisais un peu tout à l'oreille et tout. Et j'ai entendu le jazz tout de suite, j'ai dit tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'avais déjà fait un peu des petites, je sais pas, des improvisations, des compositions, entre guillemets, quand j'étais vraiment très jeune et tout. Donc je pense qu'il y avait toujours ce côté un peu plus d'improvisation et de liberté qui m'attirait avec le jazz. Et puis oui, j'ai entendu ces choses-là et je me suis dit bon, ça c'est pour moi. Tout de suite, et heureusement que mes parents, ils étaient cool, ils m'ont soutenu, et donc ils m'ont orienté vers une prof de de jazz, d'ailleurs.
Une particulière.
Voilà, oui, particulière.
Cours particulier.
Et, voilà, et puis à 16 ans, elle me dit, tiens, il y a des élèves du conservatoire de l'université de Melbourne qui commence un groupe, il cherche un pianiste, tu devrais le faire. Et donc voilà, et je me suis mis dans mon premier groupe comme ça, en fait.
Ah d'accord, premier groupe de jazz donc.
Oui, bah, premier
d'accord.
Groupe.
Avant, on n'est pas
court.
Passé par le rock ou je sais pas quoi, parce qu'il y a pas mal de musiciens qui parfois comme ça,
non.
Les bassistes notamment, ils font toujours un peu de rock avant, ou les guitaristes
oui,
aussi,
non,
ou pendant ou en
peu,
même temps.
C'était un peu direct, et c'était à ce moment-là que je réalisais que voilà, j'avais une bonne, solide formation de piano et que j'avais des notions de jazz avec mes cours particuliers, mais que je n'étais pas vraiment du tout un musicien de jazz fonctionnel à 16 ans. Et donc, voilà, en anglais, on dit « sink or swim ». Donc voilà, il a fallu que...
On surnage donc... ou on flotte ou on coule.
Oui, exactement. Donc, il a fallu beaucoup nager pour pouvoir flotter,
d'accord.
Surtout avec des gars qui étaient plus âgés et déjà à la fac.
Plus expérimentés.
Non, c'était une bonne école.
D'accord. Et vous écoutiez beaucoup de jazz alors ? On écoutait du jazz dans la famille ?
Alors, pas trop. En fait, mon père qui écoutait presque tout sauf le jazz.
Donc déjà
pas,
ça.
Il y a peut-être un truc à analyser là,
okay.
Je ne sais pas. Mais, et tous les 3 enfants adorent le jazz.
D'accord.
Mais oui, lui, c'était vraiment tout de musique médiévale et surtout beaucoup de classiques. Mozart, Monteverdi, Schubert, MMS comme il disait toujours.
Ah,
et
d'accord.
Après, tout MMS. Ça jusqu'au Beatles et Creedence Clearwater. Et
d'accord.
Après, c'était presque tout ce qu'il y a entre ces deux trucs, sauf le jazz.
Voilà.
Ils avaient un ou deux disques de... Il y avait un disque de Thelonious Monk et
d'accord.
Un ou deux autres, mais c'était pas principalement ce qu'on écoutait. Donc
d'accord.
Je pense que c'est venu assez naturellement pour moi.
Et donc, est-ce qu'il y avait un disque de Dave Brubeck, par exemple?
Alors ça, c'était plus tard, oui, mais il y avait un...
J'avance, alors
oui,
j'ai
oui,
vu
oui,
comment
oui.
Subtilement
oui, oui.
Je viens vers la pause musicale.
Exactement.
Pas de,
là,
pas
c'était
de...
un peu plus tard, mais j'étais déjà un peu orienté, un peu jazz, et je sais pas pourquoi, mais je regardais dans le magasin de disques, et je sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur ce genre de disque. Je pense que j'avais, je sais pas, 13 ans ou un truc comme ça, les genres de Greatest Hits de Dave Brubeck, et il y avait juste... Voilà, il y avait un titre en particulier qu'on va passer là que,
ah bon
que j'ai adoré. que j'ai adoré, mais voilà, c'est vrai que c'est une figure importante dans le jazz et c'est juste juste un des premiers disques que j'ai écouté. Voilà, donc ça fait toujours des souvenirs
bien sûr.
Importants.
Bah oui, c'est important, bien sûr. Et qui vous a donné envie de jouer, ou en tout cas de vous obstiner, de vous accrocher au truc pour pas couler, justement. Ouais. Alors, on va écouter ce premier titre, première pause dans cette jazz interview avec vous, David Gassin, « In Your Own Sweet Way » de Dave Brubeck, quand vous aviez 13 ans. Voilà. Oh là là.
Voilà.
C'est émouvant. Thank you. Dave Brubeck. Alors, c'est Brubeck, c'est Dave. Et vous, c'est Daniel. Hein.
Voilà. Parce
que je crois que je me suis un peu mélangé les prénoms.
Ça arrive.
Voilà. Ben oui, ça arrive. La preuve. Moi, c'est Serge.
C'est arrivé. Là,
Camilla qui est là. Julie voir là-bas. Voilà. Je resitue un peu les choses pour pas qu'on fasse de nouvelles erreurs. Donc, Dave Brubeck, In Your Own Sweet Way, quand il avait 13 ans, c'est ce qu'écoutait Daniel Gassin.
Voilà, entre autres, ça m'a marqué.
Voilà, et ça a marqué tellement que ça a encouragé une carrière de musicien, pianiste de jazz.
Oui, ça a aidé, bien sûr, comme toutes les belles choses à écouter. Voilà, c'est de l'inspiration.
Donc là, c'est la découverte, hein, on va dire qu'on est quand même 13 ans, ça va quoi. Découverte du jazz. Mm. Donc là, on y va à fond, comme on a déjà un petit peu évoqué dans la première partie,
oui.
Les cours particuliers, etc. Mm. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait un premier groupe.
Oui, oui.
Là, c'est parti.
Oui, oui.
On joue beaucoup. Comment ça se passe là? Vous jouez où?
Il
y a des clubs, c'est Melbourne,
oui,
c'est quoi?
Oui, oui, oui. Ça,
la scène
ça répète
là-bas,
beaucoup.
Alors, finalement.
Ça répète beaucoup. Et puis, ça commence à jouer des dates, oui, ici et là. Quelques dates sympas, quelques dates moins glorieuses, mais
c'est-à-dire
franchement, quelques dates sympas.
C'est-à-dire
aussi.
La qualité, c'est quoi?
Oui,
c'est
oui,
la...
oui,
ça veut dire quoi,
non,
moins glorieuse?
Tout, entre des petits clubs, entre des petits rades et même quelques festivals.
Parce qu'il faut jouer, oui. Il faut jouer devant un public surtout.
Oui, et surtout, voilà, au début, c'est le début, hein, et il ne faut pas trop. Faut pas se leurrer. Aussi.
Et le groupe est stable?
Oui, oui, le groupe est stable.
D'accord, donc il y a quoi? C'est un quartet,
ouais,
c'est quoi?
C'était un quintet.
Quintet, déjà?
C'était un quintet. Voilà, et ça tournait un peu, ça tournait sur des périodes, mais c'était un groupe stable qui a évolué sur plusieurs années, voilà.
Donc, là, je voudrais faire un parallèle avec ça, je vais faire un saut dans le temps. Vous arrivez à Paris quand?
Il y a 6 ans.
Quelle est la différence, la première différence que vous avez ressentie entre le fait d'être un pianiste de jazz à Melbourne et le fait d'en devenir un à Paris?
Dans un premier temps, j'ai constaté que j'avais plus de taf parce que bien sûr j'arrive et je connais personne, donc il fallait se refaire un réseau. Mais non.
Parce que vous êtes arrivé. Attendez, c'est quoi la raison à Paris?
J'ai suivi une Française.
Ah là là, faut jamais suivre
grand
classique. Une Française.
Oui, 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 c'est ça que j'ai appris aussi. Non, mais ça c'est pas. Mais bon. Voilà. Mais voilà, je suis venu pour l'amour. Je suis resté pour l'amour de la musique.
Ah, c'est beau.
Voilà.
D'accord. Très bien. Donc voilà, c'est une très belle explication.
Voilà.
D'abord ça.
Je sais pas sinon les différences.
Donc difficile. Forcément, il faut se faire une place à Paris, qui est quand même pas non plus une ville où il y a 2 clubs et demi et 3 musiciens.
Oui, exactement. Et il n'y a pas non plus 3 pianistes et demi. Et ils n'avaient pas vraiment besoin d'un autre pianiste de jazz à Paris. Donc
mais australien, il n'y en a pas 12 000 par contre.
Non. Après,
franco-australien.
Non, c'est sûr qu'il y en a encore moins. Après, je pense pas que c'est quelque chose de plus recherché que ça. Mais voilà, ça avait pas besoin d'un pianiste en plus. Donc c'est vrai qu'il faut faire, sa place. Et il faut faire sa place et voilà, ça passe par le même chemin de sortir, de rencontrer
bien
des
sûr,
gens, de faire
sûr,
beaucoup
des jams
de jam,
et tout,
de,
voilà,
commencer,
bien sûr.
De commencer par jouer avec les mauvais au jam parce qu'ils ne te connaissent pas, donc ils pensent que tu dois être mauvais. Après, qu'on t'entende de bien jouer,
touk,
de jouer
touk,
avec les meilleurs, de faire
tip,
des sessions.
On monte marche par marche. Ouais.
Voilà, de devenir ami avec quelques gars, avoir des affinités. Et puis
bien
après,
sûr.
Finalement, le téléphone, il commence à sonner
bien
un
sûr.
Petit peu.
Tiens, tu viens, machin.
Voilà.
Alors, là, vous arrivez donc il y a 6 ans, donc au 2012-2013,
voilà.
Et vous avez déjà, parce qu'on en est au 4e, on va en parler dans la prochaine séquence, la 3e et dernière, déjà 3 albums ou 4, je ne sais plus.
Mais là, je suis au 4e. Là.
Et donc, quand vous arrivez à Paris, il y a combien d'albums derrière?
Oui, il y en avait 3 en Australie.
3 déjà, donc vous arrivez quand même, non pas, voilà, pas juste comme ça, puis je vais jouer du piano, quoi. On a déjà enregistré 3 disques.
Oui, bien sûr, ça aide toujours.
Ça fait un peu comme des super cartes de visite quand même.
Oui, toujours, et j'ai commencé à remonter ces projets-là, trio et sextet aussi, à Paris avec des musiciens parisiens, et ça c'était bien, parce que oui, ça permet de tout de suite se faire entendre un peu par le public, faire quelques dates dans quelques clubs, et aussi que les autres musiciens, ils entendent ton répertoire et ta musique
voilà,
et ton jeu.
Voilà, c'est ça,
donc
bien sûr,
pas mal.
Parce que le plus important, c'est ça, comme vous êtes compositeur, c'est de faire entendre sa propre musique, c'est bien, bien de faire savoir qu'on est un bon pianiste et qu'on peut jouer voilà, les jams et compagnie, mais voilà, on a toujours envie de faire entendre sa propre musique.
Oui, les deux sont très importants. Voilà.
Et là, les premiers musiciens avec lesquels vous établissez un lien solide à Paris, c'est des gens qu'on connaît un peu, j'imagine.
Oui, sûrement. Après, ça a un petit peu évolué pour certains, mais oui.
Qui vous ont fait confiance au départ et qui vous ont permis d'avancer un peu plus vite.
Oui, tout à fait. Donc après, c'est toujours un peu par période ces genres de choses souvent.
Oui, c'est
et
vrai.
Après, ça évolue un peu. Et après, vraiment, quand on est dans une scène un petit peu, là, on établit vraiment avec qui on on se sent le mieux musicalement et humainement. Les deux vont souvent ensemble, d'ailleurs.
Mmh, bien sûr.
Voilà.
Et,
donc,
là, et là, vous avez un groupe français. Enfin, oui, français, oui, je veux dire, oui, franco-australien aussi.
Oui, mais... oui, exactement. Donc, oui, là, avec, là, j'ai établi un peu ma rythmique de prédilection avec Fabrizio Nicolas Garcia à la contrebasse et Damien Françon à la batterie.
Damien Françon à la batterie, oui.
Et c'est, voilà, c'est... Voilà, c'est pas les, du tout les seuls gars sur Paris que j'apprécie, mais c'est des gars que j'apprécie particulièrement,
voilà,
et
puis, ouais,
humainement et dans le jeu. Et je pense que ça se passe très bien entre nous trois. Donc déjà, ça, c'était la base du, du trio
sûr.
Et du
Faut
projet
déjà, voilà.
de trio qui continue et que je pense enregistrer d'ici pas si longtemps. Et sinon, voilà, c'était aussi la rythmique derrière les deux autres musiciens sur le nouveau projet.
Ouais, et donc le quintet s'étoffe comment alors, qui...
Du coup, oui, avec Fabrizio et Damien en rythmique, moi au piano bien sûr, et puis Josiah Woodson à la guitare, qui est un super multi-instrumentiste américain, trompettiste, guitariste, entre autres, mais principalement trompettiste, guitariste, et qui fait de la
guitare. C'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal. Qui fait de la guitare dans ce projet à moi. Et une super chanteuse de New York, Alita Moses.
D'accord.
Voilà,
oui.
Pour compléter l'ensemble.
Ouais. Qu'on en entendra à la fin de cette émission,
exactement.
Pour se dire au revoir. Mais on n'en est pas encore là. On a encore une séquence à faire pour parler justement un peu plus de la construction de cet EP, parce que c'est pas vraiment un album, enfin bon, on va pas chipoter. On va écouter un autre choix de Daniel Gassin, c'est bon, là je suis pas trompé de prénom,
voilà,
du Miles Davis, All of You, en tout cas c'est le titre,
ouais,
de la chanson.
L'album, il est surtout connu en tant que My Funny Valentine and
ah
Foreign
oui, exact,
c'est,
ouais.
un, c'est, un double, c'est un double CD.
Alors on écoute, pourquoi avoir choisi ce titre là, on le saura, on va en parler un petit peu après,
okay.
Mais il dure assez longtemps, alors peut-être qu'on va pas l'entendre en entier, on va choisir le meilleur moment pour être vraiment correct avec Miles qui nous écoute forcément de quelque part, parce qu'il dure une quinzaine de minutes le morceau quand même,
oui.
Donc c'est, vous m'avez dit avant, votre morceau préféré de votre disque préféré, donc on l'écoute,
voilà.
Et on en parle un peu après, All of You, Miles Davis. Thank you. Voilà, c'était Miles Davis, bien sûr, hein, au cas où on ne l'aurait pas reconnu, en public et avec ce titre « All of You ». Qui est donc, je reprends ses propres mots, mon morceau préféré de mon disque préféré. C'est notre invité dans cette émission de Jazz Interview sur Art District Radio, Daniel Gassin. Pourquoi c'est le morceau préféré du disque préféré? Question facile, mais bon, je la pose quand même.
Déjà, je pense que déjà c'est le disque préféré parce que je sais pas, pour moi, je ne sais pas si le jazz il a jamais atteint des sommets supérieur à ce concert.
Ah, carrément. Ah oui.
Pour moi, je pense que c'est un des grands orchestres de jazz de tous les temps, dans un très très grand jour. Et il y a vraiment des exemples, pour moi, c'est vraiment les exemples du meilleur du jazz joué par le meilleur niveau, en fait. Il y a tout, il y a la musicalité, il y a énormément d'écoute. Il y a vraiment du génie niveau le contenu des solos, par exemple, de George Coleman au sax ténor, ça m'a marqué. C'est des solos qui m'ont influencé, surtout sur All of You. C'est aussi peut-être pour ça que je cite ce titre. Il y en a tellement de bien sur ce disque. Il y a le génie de Tony Williams qui est très 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 jeune à ce moment-là, mais on pourrait presque dire que la batterie jazz n'a jamais été mieux jouée que lui là à ce jeune âge. Herbie Hancock, il est là en mode génie harmonique total, ce qui est toujours le cas chez lui, mais vraiment il y a des exemples vraiment assez incroyables, par exemple son intro solo piano sur My Funny Valentine.
Parce que c'est ce qu'on disait, le titre, enfin voilà,
oui, c'est un
le
genre
plus
de
connu.
Double album, en fait.
Voilà, ouais. C'est ça, c'est My Funny Valentine, parce que c'est le thème.
Bah, c'est
bien
My
connu.
Funny Valentine, et puis l'autre c'est Four, mais après c'est bon, Four and More. Mais voilà, il y a vraiment des exemples de très très haut niveau de piano et de batterie surtout, et puis de jeu d'ensemble. Pour moi aussi, c'est toujours les libertés qu'ils sont capables de prendre avec même les structures, quelque chose qu'on ne fait pas si souvent que ça.
C'est-à-dire
dans le jazz, bah, normalement dans le jazz on peut partir loin, mais souvent on garde des structures. Là, ils ouvrent dans tous les sens et ils sont juste là en train de s'écouter, de se suivre un peu dans l'inconnu, et ils gèrent ça tellement bien que c'est juste exceptionnel. Encore une fois, All of You, ce titre, c'est un très bon exemple de ça, et c'est rare de voir des gens pouvoir sortir de la structure de manière aussi spontanée et de faire quelque chose d'aussi bien avec. Voilà, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je trouve ce disque juste incroyable, et je pense que c'est vraiment l'album Île déserte, voilà, si on fait, c'est vraiment ça, et je pense que c'est vraiment le truc, on peut écouter ça, on peut écouter ça 100 fois, 1000 fois, et on va toujours entendre un autre truc qu'on avait.
Et ça, c'est la vertu de...
telle richesse et profondeur à tous les niveaux de tous les musiciens.
Ouais, on écoute avec sa propre humeur aussi, enfin, c'est des musiques qui envoient et sur lesquelles on répond, enfin je veux dire voilà, c'est ça, sinon on écoute une fois puis c'est fini, on a oublié même qu'on avait écouté. Par contre des morceaux comme ça, enfin bon, moi je suis pas peut-être spécialement sensible à ça, mais je l'ai pas non plus beaucoup écouté, mais il y a des musiques comme ça, je comprends très bien ce que vous voulez dire, ouais, qui voilà, on va les réécouter dans un mois, dans trois mois, dans un an, et puis on va l'entendre différemment, mais on adorera toujours ça, voilà, c'est ça,
oui,
ou
même ça, vraiment on peut écouter ça 20 fois de suite et on va toujours entendre quelque chose de différent, tellement il y a d'informations.
Exactement.
Et tellement il y a de richesse,
voilà,
dedans,
c'est ça,
en fait.
Ouais. Absolument, ouais. Alors je vais reprendre la formule sortir de la structure, parce que ça me fait penser à une chose, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est pas tellement quelque chose de super connu, c'est pas non plus super important tant que ça, mais quand même un petit peu, c'est qu'en fait pour mettre un peu, comme on dit en France, du beurre dans les épinards, vous avez été avocat avant d'être principalement musicien professionnel.
Oui. Après voilà, c'est pas vraiment j'ai pas été avocat pour
juriste.
Non, j'ai été avocat, pas
genre
juriste.
Plaider tout ça.
Vrai truc, pas juriste. Ah ouais. Le vrai truc, mais d'accord. J'ai pas été avocat pour mettre du beurre dans les épinards, même si bien sûr c'est aussi la réalité, mais j'ai eu ce parcours là. Je viens d'une famille de gens qui sortent des études, mais pas du tout de
milieu
artistique.
Ouais, d'accord. Donc il fallait donner de change aussi.
C'est même pas qu'il fallait, c'est juste que je suis un peu tombé là-dedans, un peu naturellement. Parfois, je m'en veux pour pas savoir mieux pourquoi je suis tombé là-dedans, parce que c'est un tel choix fort, entre guillemets, de carrière.
Ouais.
C'était juste la culture de la famille, il n'y avait pas du tout de pression. Mes parents m'ont toujours très bien soutenu dans la musique, ils n'étaient pas du tout dans le stéréotype. Ouais. Ah ben non, mais là, il faut que tu fasses un truc sérieux.
Tu choisis.
Non, il n'y avait jamais de ça, mais je suis un peu tombé là-dedans, je pense, parce que voilà, je baignais un peu dans cette culture d'études entre mes parents et mes sœurs aussi. Tout le monde a fait des études assez poussées dans des grands établissements.
Des universités, c'est ça. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, malgré tout, ça n'empêche pas de faire 3 albums. Donc, avant d'arriver en France, hein, comme on l'a dit déjà précédemment.
Tout à fait.
Et là, il y en a. Alors, c'est. Techniquement, c'est pas un album parce qu'il n'y a pas 8, 10 ou 12 titres, mais il y en a 5.
Il y en a 5.
5 titres, donc c'est un EP, comme on dit, qui va bientôt sortir.
Voilà.
Comme on va le dire aussi avant de se quitter, on va pouvoir en entendre une grande partie prochainement au Caveau des Oubliettes. Hein. On laissera la patronne du Caveau nous le dire, redire dans quelques instants. Et donc, oui, alors je refais une parenthèse, c'est marrant parce que la première fois qu'on s'était rencontrés, Daniel, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, l'émission sur l'International Jazz Day, vous jouiez avec Benjamin Petit.
Tout à fait.
Et Benjamin Petit, alors lui, il n'est pas avocat, mais il est pilote de ligne.
Oui.
Et donc, du coup, on a rigolé pendant la pause avec Camilla du Caveau des Oubliettes. Parce que c'est vrai que c'est des personnalités, c'est autre chose qu'on n'a pas vu. C'est fantastique. Oh, j'ai rien contre les musiciens à 100%, hein, d'accord. Mais je trouve ça drôle, en effet,
et
vachement intéressant. Ouais. Parce que ça, d'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit aussi, ça ouvre. Enfin, vous le sentez, vous
Je sais pas si je le sens. Après, forcément, c'est juste différent parce qu'on a, quand on a un parcours différent en parallèle, on a une certaine polyvalence et peut-être une certaine ouverture d'esprit un peu plus... peut-être le spectre est un peu plus large, peut-être. Qui sait ? En tout cas, c'est différent.
Oui, après, je sais
ça
pas,
fait travailler le cerveau
d'une manière
différente.
Il faut qu'elle nous trouve un médecin, par exemple, maintenant. Un médecin, je sais pas, batteur.
Exactement.
Ou quelque chose.
Et puis, on en a trouvé un, déjà.
Ah, Camilla, ça y est, prends le pouvoir.
Bonjour Serge, bonjour Daniel.
Donc Camilla, du Caveau des Oubliettes, hein, où va jouer Daniel prochainement.
On a des médecins, on a tout ce qu'il faut.
Ouais, voilà, donc on est bien équipés.
C'est vrai qu'il y a un dicton aussi, on dit ça parfois aux States, que dans les musiciens de jazz, c'est souvent des avocats ou des médecins.
Tout ça pour dire que la polyvalence, elle est aussi dans l'album. Parce qu'il y a notamment, on l'a évoqué aussi, un polyinstrumentiste, guitare, trompette, c'est ça, en particulier.
Cela dit, il ne fait que de la guitare sur ce disque.
Oui, d'accord. Mais quand même, ça veut dire que si vous lui demandez de jouer de la trompette, il peut le faire. Quoi. Et puis pas,
il peut le faire et bien. Très très bien.
Donc ça, ce n'est pas donné. Non.
Oui, ça ne rigole pas du tout. Et après, oui, la musique, elle est un petit peu comme ça aussi. Elle est un petit peu à mi-chemin entre des styles. Ça aussi, j'aime bien.
Je vais pas dire une bêtise, le groupe s'appelle Crossover, c'est ça?
Ça s'appelle Daniel Gassin Crossover.
Voilà, donc on est dans le crossover, on sait que les amateurs de jazz, un peu, c'est censé être un, c'est peut-être pas un style, mais une façon de désigner,
C'est une façon de désigner, de faire allusion au fait qu'il y a un mélange de styles, et
voilà.
Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce titre, et c'est parce que voilà, la musique est quand même... à mi-chemin, c'est un genre de carrefour entre du jazz moderne et sinon des rythmes plus binaires qui sont un peu d'actualité.
On va se dire au revoir dans peu de temps, là, c'est comme ça, hein, pour terminer cette jazz interview avec un titre de cette EP qui s'appelle, ce titre c'est Refugee of You, et où on entend la chanteuse. C'est très chouette, c'est très beau. Moi, j'étais surpris parce que je m'attendais pas, quand j'ai découvert le titre, à ce que ça parte en vocal, quoi. Et puis
mais c'est un projet,
c'est nouveau, ça, pour vous.
C'est pas un projet vocal
Alita Moses, elle s'appelle, c'est ça.
Oui, une super chanteuse, vraiment super chanteuse et étoile montante à New York, surtout dans la neo soul, mais aussi dans le jazz. Après, ce n'était pas mon intention vraiment de faire un projet vocal, mais c'est fait comme ça quand j'ai constaté un peu les compositions que j'avais coécrites avec les uns et avec les autres. Et aussi, voilà, c'est projet vocal, mais pas juste en mode chanteuse devant et le groupe qui accompagne. C'est vraiment, voilà, c'est juste qu'il y a de la voix dans le groupe et c'est des deux solistes et que voilà, ça fait un peu Ça fait un peu des chansons quelque part, même si c'est des chansons un peu en mode jazz moderne.
Ah, complètement, oui. Ouais, parce que justement, quand on va écouter, on va entendre là bientôt, on voit qu'il y a, il y a une construction. Moi, j'ai été surpris parce que tout d'un coup, il y a un moment de piano assez, enfin, orchestral assez étrange, assez surprenant. Puis tac, le couplet, enfin, la chanteuse revient, etc. Non, c'est pas, voilà, pas une chansonnette, même un peu jazzy, quoi, pas du tout.
C'est pas de la musique de Lobby d'Hôtel, c'est sûr.
Non, pas du tout. Alors, tout ça, et ce titre-là, évidemment, particulier, avec la totalité des musiciens qui sont sur l'album, je ne sais plus si on s'est dit ça. Au Caveau des Oubliettes, le 28. Camilla va tout nous dire bientôt.
Later, elle sera à New York, elle sera pas là, mais sinon, ça sera le même groupe. D'accord. Et Later sera très, très bien remplacée par Cynthia Abraham.
Ah oui, bien sûr.
Qui est une super chanteuse et une super musicienne sur sur la scène locale. Ouais. Et on a fait un super concert ensemble au Caveau le 24 octobre dernier. Je me suis dit, on va remettre ça.
Voilà, et donc ça sera le cas le 28 novembre.
Voilà.
Et Camilla, donc qui a déjà un peu pris la parole, mais là, qui va y aller un peu plus, va nous parler des principaux autres concerts au Caveau des Oubliettes.
Au Caveau des Oubliettes.
D'ici la fin de l'année.
Voilà, surtout sur le mois de décembre, on va pouvoir retrouver justement Josiah Woodson qui travaille avec Daniel Gassin sur l'album, qui sera en concert avec son projet les 6 et 7 décembre, je crois, avec Daniel.
Oui,
donc lui, qui va nous retrouver encore au Caveau.
C'est le batteur, c'est ça?
Non, c'est le guitariste,
je mélange tous les noms. Oui, d'accord.
Voilà, Josiah.
Ah, parce que tout à l'heure, on a parlé d'un batteur aussi.
Oui.
Très sévère. Enfin, voilà. Pas de Daniel.
On a parlé de Samuel Lavizeau qui est le batteur de Kenny Garrett, qui sera l'invité de Benjamin Petit.
Ah, c'est Benjamin.
Qui est un de nos référents sur les jam jazz, comme Daniel Gassin. Et qu'il sera là, je crois, le 12 décembre au Caveau des Oubliettes.
D'accord.
Donc comme d'habitude pour nous, c'est tous les jeudis le jazz au Caveau des Oubliettes. Et on continue avec une programmation assez variée, puisque on est sur donc les jeudis jazz, les mercredis soul, funk et de plus en plus afro. On a également une soirée régulière avec la baguetterie qui s'appelle Bistro Bag, où on invite tous les batteurs à jouer. Donc on a quand même deux batteries sur scène.
Wow.
C'est une soirée assez incroyable. Donc on a cette soirée aussi régulièrement le mercredi. Et puis les dimanches, on retrouve toujours nos concerts et jam blues. Et on a d'ailleurs un événement particulier le 1er décembre, puisqu'on organise la Blues Réunion. Donc ça va être un petit peu comme ce qu'on avait fait pour la Journée internationale du jazz. On va retrouver un petit peu tous les intervenants du blues à Paris, qui vont tous venir pour partager un bon moment au Caveau.
C'est un événement particulier
où on réunit, donc on aura évidemment un line-up habituel, mais on a invité tous les musiciens qui participent régulièrement aux concerts et aux jam blues du Caveau. Donc on pourra retrouver des intervenants comme Jesse Lee, comme Yuva, comme Bassam Bellman, comme les frères Cornelis, un petit peu tout type de musicien qui vient régulièrement le dimanche à la Jam Blues.
Et voilà. Et de façon générale, pour se tenir au courant du programme du Caveau, c'est la page Facebook.
On peut se retrouver sur la page fan où on pourra aussi visualiser les concerts en direct, puisqu'on fait tous nos événements en streaming pour les personnes qui n'habitent pas à Paris ou qui ne peuvent pas venir spécifiquement à tous les concerts. Sur toutes les plateformes internet, Google, où il y aura l'ensemble de nos événements, et bientôt sur notre site internet en ligne.
En construction, comme on dit toujours.
En construction, il sera prêt pour la fin d'année, mais on prépare pas mal de surprises par rapport à ça. Donc on verra ça bientôt.
Bon, très bien, merci Camilla.
Merci Serge.
Évoqué cette programmation au Caveau des Oubliettes, où donc Daniel Gassin jouera le 28 novembre, très bientôt, avec ce répertoire, pas uniquement, mais notamment, parce qu'il y a déjà ses quatrièmes, il y a déjà trois albums à vendre, donc il y a de quoi jouer, qui s'appelle donc le Daniel Gassin Crossover Band. Daniel, merci. Il y a une prochaine fois, on dit jamais 203, ça fait déjà deux fois qu'on se parle, donc on va se reparler.
Avec plaisir.
Voilà, on se quitte avec un titre, donc je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, de cette EP, Daniel Gassin, Crossover Band, Refugee of You. Au revoir.
Au revoir, Serge.
Au revoir. Mark my
but